7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bienvenue à tous les voisins et les voisines. Elle travaille dans le monde de l'informatique, de l'aéronautique, du cinéma ou encore du vin. À l'occasion des 100 ans du club Zonta qui œuvre pour l'amélioration des conditions et des droits des femmes dans le monde, on s'intéresse aujourd'hui à ces femmes qui se sont fait une place dans des milieux très masculins. Comment ont-elles réussi à s'imposer? Comment ont-elles bravé les obstacles? On en parle avec nos invités, plateau exclusivement féminin ce matin. Julianne Morisseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-haïtienne, présidente du Zonta Club Paris-Port-Royal-Concorde et de l'ONG Au Secours des Enfants Démunis Haïtiens. Et puis vous êtes directrice de Business Unit dans un groupe informatique.
C'est bien cela.
Hortense Tchékété, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes béninoise,
oui.
Orthoptiste et membre fondateur du Zonta Club de Cotonou. C'était en l'an 2000.
À l'an 2000 au Bénin.
Sigrun et Christiansen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise à la retraite et ambassadrice de la fondation du Zonta International. Et à mes côtés également, Carole Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sommelière et directrice générale de la société que vous avez fondée, Chez Elles, les femmes et le vin. Et puis nous aurons en ligne tout à l'heure Narindra Ranaivo Myarana, lauréate 2018 du prix Amelia Earhart, du nom de cette pionnière de l'aviation dans les années 30. Si vous voulez témoigner ou poser des questions à nos invités, n'hésitez pas à un seul numéro, le 33 1 84 22 71 71, un numéro qui fonctionne aussi sur WhatsApp pour les messages.
7 milliards de voisins
et la planète sépare.
On va revenir sur vos parcours respectifs, mais d'abord, est-ce que toutes les quatre, vous vous revendiquez comme féministe? Julianne Morisseau?
Oui, absolument.
Hortense?
Féministe pour les droits des femmes.
Sigrun?
Absolument, oui, féministe. Déjà ma mère, qui était née en 1914, était féministe.
Elle était déjà attachée à l'égalité homme-femme?
Très.
Et elle vous a toujours soutenue?
Oui, mais je suis un enfant unique, donc mon père l'a bien soutenue aussi.
Est-ce que vous aviez des parents un peu révolutionnaires pour l'époque?
Je pense,
sur leur époque?
Oui, sur l'époque, oui.
Et vous viviez, il faut le préciser, en Norvège?
Oui, je vivais en Norvège. Ça fait 20 ans que je suis en France seulement.
Carole Gaillard, est-ce que vous vous sentez féministe?
Oui, absolument.
Et alors, quelle définition vous donnez du féminisme?
Mettre en valeur les femmes, mais pas forcément un combat féministe, certes, mais dans le sens mixité, égalité, parité. C'est pour ça que j'ai créé Chez Elles, pour vraiment mettre en lumière et en valeur ces femmes vigneronnes. Donc, certes féministe, même si dans le vin, il n'y a absolument pas d'approche sexuée, mais admiratrice des femmes.
Il faut préciser, hein, Chez Elles, Chez, C-H-A-I-S.
Tout à fait.
Voilà, joli jeu de mots. Julianne, votre point commun, c'est le Zonta Paris-Port-Royal-Concorde, un club service né à Dakar en 1970 et rattaché au Zonta International qui fête ses 19 ans, qui a été créé aux États-Unis.
C'est 100 ans.
J'ai dit 19 ans.
C'est 100 ans.
Voilà, en 1919. Voilà. Donc, il existe aujourd'hui 1200 clubs répartis dans 63 pays. Que signifie le mot Zonta?
Zonta vient d'un mot Sioux, donc amérindien du Nord, qui veut dire entraide, solidarité, personne de confiance, de bonne mœurs. Donc c'est vraiment un esprit d'entraide et de valorisation de la femme.
Le Zonta, c'est un peu un club comme le Rotary ou le Lions?
C'est exactement comme un club rotarien ou Lions, si ce n'est effectivement que nos programmes sont uniquement ciblé sur les femmes et les jeunes filles, donc la valorisation des filles, des jeunes femmes à travers l'éducation, la promotion de la femme, revoir le statut légal de la femme et travailler dans le sens de l'égalité stricte des droits des femmes et des hommes.
C'est important pour réussir professionnellement pour les femmes aujourd'hui d'avoir une chaîne de solidarité au féminin?
Je ne dirais pas que c'est important, c'est un plus. C'est un plus, parce que pour réussir, il faut surtout se remonter les manches et faire preuve de bonne volonté, de formation, de ténacité. Mais le fait de pouvoir s'appuyer sur de la solidarité au féminin ou au masculin, parce que les hommes peuvent également travailler dans notre sens. Parce que d'ailleurs, le club Zonta, c'est un club mixte. Comme même nos programmes visent les femmes et les jeunes filles, c'est un club mixte. On a eu des présidents de clubs qui étaient hommes, des hommes, qui travaillent ensemble à faire avancer le statut de la femme.
Mais quel est le pourcentage homme-femme au sein de Zonta?
Je ne saurais dire aujourd'hui, puisque les membres en termes de chiffres sont assez fluctuants, mais c'est un club majoritairement féminin.
Mais je reviens à ma question quand même, c'est important d'avoir des réseaux
C'est important d'avoir des réseaux, oui. Des réseaux de solidarité où on peut effectivement avoir une écoute, une aide, une entraide, une écoute, aide en termes de compétences, aide en termes de contacts, de réseaux et autres.
Alors je vous propose de prendre une auditrice au téléphone,
oui.
Lisbeth qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Lisbeth.
Bonjour Chantal.
Lisbeth, on vous écoute.
Alors, d'entrée de jeu, je voudrais dire que c'est très difficile quand on est une femme d'exercer dans le milieu du cinéma.
Vous êtes réalisatrice et productrice. Hein.
Et productrice de cinéma au Congo-Brazzaville.
Alors pourquoi est-ce qu'il est difficile de réussir comme réalisatrice et productrice dans un pays comme le Congo-Brazza?
Ben, c'est parce qu'on est exposé, notamment au harcèlement. C'est vrai qu'il y a plusieurs vies, plusieurs problèmes, mais le harcèlement, c'est un point qui revient souvent. Je vais vous partager une expérience, l'une de mes expériences. Hein. J'en ai connu beaucoup. Donc, lors de la production de mon dernier film, Elonga, l'un de mes principaux partenaires conditionne la suite de notre collaboration à une partie de jambes en l'air. Permettez-moi le terme. Alors, suite à mon refus catégorique, il rompt notre collaboration. Alors, imaginez le moral d'une personne ayant déplacé une quinzaine de personnes d'une ville à une autre. Et un acteur de renommée internationale dans mon pays, donc c'était pas facile. C'était très difficile, surtout d'arriver à réunir une somme qui représentait quasiment la moitié de la production. Et à ce moment-là, je vous assure qu'il faut être une lionne, une vraie lionne pour se battre à réunir ce montant en 2 semaines. Mais j'avais pour obligation, en bon manager, de continuer à paraître forte devant mon équipe. Bien que seule, dans un coin, je pouvais avoir envie de pleurer, mais je n'avais pas à le faire. Il fallait que je réussisse. Et au bout du compte, Dieu merci, j'ai réussi à finir cette production avec une post-prod qui m'a pris près d'une année. Aujourd'hui, le film est sorti. Il est sorti au Congo. Il fait des festivals. Il va être distribué en France par une maison française. Donc, en fait, c'est pour dire que c'est très difficile pour une femme. Et il faudra qu'à un moment donné, le potentiel de la femme prenne le dessus sur le physique. Parce qu'on est trop confronté à ce problème-là. Même quand on est dans les recherches de fonds, quand on va vers certains partenaires, c'est toujours le physique de la personne qui est mis en avant. En fait, ils ne voient même pas le travail qu'il y a, que la personne peut donner. On ne voit pas le potentiel de la femme, mais tout de suite, c'est la femme, c'est le physique, c'est la personne qu'on veut mettre sur son canapé. Et c'est un problème, c'est un fait vraiment que nous avons à...
Alors, on va demander à nos invités comment elles réagissent à votre témoignage. Qui veut parler la première? Julienne?
C'est vrai que le sexisme est très important dans certains secteurs d'activité et il faut pouvoir dépasser ce problème de sexisme, mettre en avant ses compétences et se faire respecter. Donc s'imposer dans un milieu professionnel, que ce soit l'informatique, le cinéma, et mettre en avant, et en insistant sur nos compétences et en essayant de gommer nos attraits physiques sans pour autant se masculiniser, parce que gommer ses attraits physiques n'est pas pour autant la condition sine qua non pour réussir. Mais il faut toujours le rappeler. Toujours le rappeler dans tous les rendez-vous, commencer par cette piqueur de rappel. C'est nécessaire. C'est des mécanismes qu'on adopte, qu'on devrait pas adopter normalement.
C'est important de fixer un cadre, Carole Gaillard.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je pense surtout à ces femmes vigneronnes que je représente. Je pense que ça faisait partie d'une de leurs difficultés, c'est plus vrai maintenant, mais de se positionner en tant que femme, là peut-être pas l'image du corps, mais peut-être pas la force physique pour faire un tel métier, c'est quand même très 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 difficile aussi d'être vigneronne, mais je pense qu'il faut pas oublier notre enveloppe féminine et rester féministe, mais les deux mots doivent pouvoir fonctionner ensemble.
Mais vous dites que les femmes vigneronnes se sont endurcies durcit et que les rapports finalement sont très durs aussi avec elle. Vous avez dit, je crois, une fois qu'elle vous avait fait pleurer.
Tout à fait. Je trouve que cet univers est un univers certes masculin, mais surtout très dur. Le monde de la Terre, c'est un monde difficile. Et ces femmes, oui, m'ont fait pleurer au début parce qu'elles doutaient, elles me sentaient pas légitime, alors que je trouvais que j'avais toute la légitimité pour les représenter, les terroirs féminins français à travers le monde. Mais ce sont des personnes extrêmement dures parce que je pense que le monde de la Terre est dur. C'est dame nature est dure.
Et ça veut dire que même quand on est une femme, on peut aussi avoir des préjugés, estimer qu'à certaines places, la place logique revient à l'homme.
Tout à fait. Et ça, c'est terrible quand finalement ce sont des femmes qui véhiculent ce message.
Hortense, comment vous avez réagi à ce que Lisbeth nous racontait à l'instant?
Oui, je pense que c'est les choses de la vie. Hein. Ça arrive couramment, que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde. Mais pour se faire respecter et arriver à s'imposer, comme l'a dit Julienne, je pense qu'il faudrait être compétente dans son domaine, que nous soyons des femmes professionnelles. Et c'est pour ça qu'au Zonta, nous militons pour l'autonomisation des femmes. Et nous faisons le plaidoyer pour que les filles et les femmes soient aient une profession, que les filles aillent à l'école, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut s'imposer.
Ça, c'est votre combat actuellement au Bénin, toutes les filles à l'école, l'éducation des filles.
Toutes les filles à l'école, jusqu'à un certain niveau, se battre contre les agressions, les harcèlements, les grossesses précoces qui freinent l'éducation de nos enfants.
Et est-ce que vous avez vu les choses bouger au fil des ans ou est-ce que ça reste encore difficile?
Parce que nous sommes au Bénin, le Zonta est dans un collectif d'associations de clubs services et associations féminines. Donc nous travaillons en concert avec les femmes juristes. Nous avons beaucoup travaillé pour faire voter, pour faire le plaidoyer au niveau de notre assemblée et les lois ont été votées. Et l'année dernière, nous avons fait un plaidoyer avec le ministère de la Famille et des ONG où on a dit zéro grossesse à l'école et harcèlement zéro. Et ça commence à prendre. Ça commence à prendre effectivement. Et c'est là où je pense qu'il faudrait que les femmes se mettent ensemble pour travailler main dans la main pour arriver à un niveau où il y aurait l'égalité entre les hommes. Et je suis très peinée quand à chaque 8 mars, chez moi, en Afrique, on dit « bonne fête de la femme ». Non, c'est pas la femme, c'est pas le 8 mars, n'est pas la fête de la femme, c'est la fête des droits des femmes.
Il ne faut pas confondre
les
deux.
Il ne faut pas confondre, oui.
Sigrun, est-ce qu'en Norvège, on donne souvent les pays nordiques en exemple, est-ce que l'égalité homme-femme est plus acquise qu'ici en France ou en Afrique ou ailleurs dans le monde?
Je pense qu'on a eu une première ministre dans les années 80. C'est une grande dame, donc évidemment on a eu quelqu'un qui nous a montré le chemin. Mais moi je me souviens dans mon niveau d'exercice, j'étais hôtelière, et on était très peu de femmes, j'étais parmi les seules. Et on m'avait dit, un ami m'avait dit, bon, mais écoute, quand tu fais un speech, mets-toi un pantalon comme ça, et il t'écoute, il ne regarde pas tes jambes. Ça, c'était même en Norvège. Et pour dire une chose, quand je passais mes études, mon bac, on était 60 dans les études scientifiques, et de ces 60, on n'était que 9 filles. Mais bon. Maintenant, ça a évolué, mais c'est sûr qu'il faut se battre, même en Norvège, comme on dit, même en Scandinavie en général, mais bon, on arrive.
Merci Lisbeth de nous avoir appelé de Brazzaville. Bonne journée à vous. Je vais vous lire un message d'un auditeur sur Facebook, Loïc, qui nous écrit de Lubumbashi. Pour qu'une femme parvienne à s'imposer dans un milieu d'hommes, elle doit être polie, d'une bonne moralité et apprendre à collaborer. Mais elle ne doit pas être trop autoritaire, du genre à gronder les hommes, car un véritable homme ne supporte pas l'autorité d'une femme. Alors vos commentaires, Hortense.
Oui, moi je trouve que ça, c'est vraiment le propre de certains hommes en Afrique. Et ça, j'ai une histoire que je vais vous raconter rapidement. J'étais arrivée à un poste de service, à une station service, pour prendre du carburant dans ma voiture. Je klaxonne. Le mec, il dormait. J'arrive, j'ouvre, je dis, mais vous dormez? Il me dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu ne sais pas que je suis un homme? Alors là, je me suis enflammée. J'ai dit, mais tu es un homme, mais je suis une femme et mon père m'a envoyée à l'école. Donc, c'est ça. La femme, elle n'est pas faite pour être l'égale de l'homme, mais être à la maison, respectée. Mais la mentalité change, hein, je vous assure.
Oui. Julienne.
Femme soumise, femme qui ne dépasse pas trop les plis, qui reste dans son petit coin et qui laisse la parole aux hommes et qui acquiesce tout ce que les hommes puissent dire. Bon, vous comprenez par mon discours que je ne suis pas du tout dans le sens de cet auditeur de Lubumbashi.
Alors, on va écouter un autre message, un témoignage que nous a laissé sur WhatsApp Maria, qui nous écoute à Tunja, en Colombie.
En tant que professeure, j'ai eu l'occasion d'être directrice de l'école de langue pendant 5 semestres. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de résistance, surtout de la part des hommes, mais pas seulement de la part des hommes, mais aussi des femmes. J'habite dans une région en Colombie qui est assez macho, où les gens parfois ont du mal à voir une femme chef. Au revoir.
Voilà, les hommes ont encore du mal à voir une femme chef. Qu'est-ce que ça vous inspire, les unes les autres, Carole?
Je suis d'accord avec ce témoignage, mais je pense qu'il faut peut-être le remettre dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Je pense que en France, les choses ont quand même évolué. Moi, je vois bien quand je me présente ambassadrice des femmes vigneronnes, on me dit mais pourquoi les femmes? Enfin, ça devient presque en France, je trouve quand même, et c'est une chance, presque un non-sujet, le fait d'être femme. Et là, je pense que depuis une dizaine d'années, on a fait quand même des grands pas, on a gagné des victoires. Pour moi, l'histoire des femmes est quand même bien, bien lancée. Ça ne l'est pas partout, la preuve, ces témoignages qu'on entend et qui viennent d'Afrique. Et là, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et là, bravo pour la mission du Zonta.
Julienne Morisseau.
Oui, en France, il y a quand même du chemin à faire, parce que le plafond de verre existe toujours dans certains secteurs d'activité. Plafond de verre qui, donc, sont des freins invisibles, hein, qui empêchent la progression de carrière pour les femmes, surtout les femmes en dessous de 35 ans, puisqu'elles sont potentiellement sujettes à des ruptures d'activité liées à la grossesse. Donc, combien même elles seraient plus compétentes, plus diplômées que certains hommes, leurs carrières sont freinées à un stade sans motif légitime. Il y a ce point, il y a également le plafond de verre qui existe, on n'en parle pas souvent en France, mais sur pour des causes ethniques. Certaines femmes qui sont de couleur, qui aspirent à des postes de direction, sont freinées parce qu'elles sont déjà femmes et femmes de couleur.
C'est la double peine.
Double peine. Et ça, c'est un sujet tabou en France. Donc, il y a aussi ce problème aussi de la discrimination à l'embauche. Donc, une femme se présente pour un poste de direction, elle sera pas forcément sur la liste des prioritaires, parce que c'est une femme. Et combien même elle sera acceptée, il y a aussi ce décalage de salaire qui est toujours présent. Donc on a quand même du chemin à faire en France, et le Zonta a toute sa légitimité au niveau des combats que porte le Zonta en France comme en Afrique ou en Colombie.
Je vais rappeler un chiffre, hein. En France, seuls 12% des métiers sont mixtes, et l'objectif du gouvernement est de faire passer ce chiffre à 33% en 2025. Donc il reste quand même un long chemin à faire.
Oui.
Un long chemin.
Oui.
Quelles sont les professions qui restent complètement fermées aux femmes? Il y en a encore, donc.
Déjà, l'aéronautique, tout ce qui est spatial également, on voit que dans ce secteur, il y a très peu de femmes. Narendra pourra vous en parler. Dans l'informatique, il y a un effort qui est fait. Ceci dit, il y a quand même que 27% de femmes. Je parle dans les métiers techniques, hein, pas des femmes assistantes, pas des femmes secrétaires dans le marketing. Non, les femmes développeuses, donc codeuses, ingénieures, que 27%. Et force est de constater que même dans l'orientation, donc dans les filières informatiques, les femmes, les jeunes filles représentent que 18% en France. Donc il y a tout un travail à faire au niveau des mentalités, au niveau de l'orientation genrée. on n'en parle pas également, parce que les clichés ou les représentations genrées se forment dès les premières instances de socialisation, donc à savoir dans la famille et ensuite l'école. Donc tous ces préjugés, ces stéréotypes sur lesquels il faut jouer dans la première sphère pour pouvoir augmenter le taux de représentation de ces femmes dans ces secteurs. Le Zonta travaille en ce sens, dans la mesure où, depuis l'année dernière, depuis la Convention internationale du Zonta à Yokohama, nous avons voté une bourse Woman in Technology qui accorde, en fait, donc c'est, le Zonta international accorde 32 bourses de 8 000 $ à des jeunes filles qui continuent leurs études dans les secteurs des technologies, donc dans l'informatique, de façon à pouvoir augmenter ce taux de représentation des femmes. Ceci dit, je tiens juste à préciser pour la partie informatique, hein, parce que si aujourd'hui on a ce déséquilibre homme-femme dans l'informatique, il faut savoir que les femmes étaient les pionnières dans l'informatique, puisque le premier programme informatique a été développé par une femme en 1842. On ne le sait pas vraiment, mais c'était une femme en Grande-Bretagne.
Alors justement, vous parliez des bourses accordées aux jeunes filles qui étudient l'aéronautique ou l'informatique, etc. Nous sommes en ligne avec Narindra Ranaivo Miarana. Bonjour.
Bonjour.
Narindra, vous avez 26 ans, vous êtes franco-malgache, doctorante en sciences mécaniques et vous avez reçu l'an dernier le prix, la bourse Amelia Earhart, une bourse donc de 10 000 $, la plus prestigieuse décernée par le Zonta. Narindra, vous voulez travailler dans l'aéronautique ?
Oui, c'était... J'aime bien les mathématiques, la mécanique, donc c'était un domaine qui m'inspirait beaucoup.
Toute petite, déjà, vous préfériez les avions aux poupées ?
Oui, on peut dire, oui.
Et est-ce que vos parents vous ont encouragé à vous engager sur la voie scientifique ?
Oui, parce que déjà, mes parents, ils ont fait des études scientifiques. Ma grande sœur aussi, elle est ingénieure en mécanique, donc c'était tout naturel pour moi de poursuivre cette voie.
Et alors, vous étiez à Madagascar à l'époque. Comment vous étiez perçue par vos camarades de classe ? Parce que j'imagine qu'il y a toujours moins de filles portées sur tout ce qui est scientifique, mathématiques, etc. Donc je suppose que c'est vrai aussi à Madagascar ?
Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'ils étaient, jaloux, admiratifs ? Quels sentiments ils avaient par rapport à vous ?
Plutôt admiratifs, du coup, je dirais.
Vous êtes venue en France, Narindra, pour vos études supérieures. Vous étiez combien de filles dans votre promo pendant vos études d'ingénieur, par exemple ?
Alors, on était 100 étudiants, dans 20 filles, donc 20% à peu près.
Ah oui. Et là, comment se comportaient les garçons ? Est-ce qu'il y avait un peu de condescendance de leur part, ou alors un respect mutuel, ou alors une compétition acharnée ?
Pendant mes études, donc l'Enser Madneka, donc dans l'école d'ingénieurs où j'étais, ils n'étaient pas ni condescendants ni compétitifs. Au contraire, ils étaient respectueux. Et on m'a même proposé de m'aider pour si j'avais des problèmes pour les maths ou les physiques. Mais voilà.
Alors, vous nous avez dit que vous voulez travailler dans l'aéronautique. C'est un monde qu'on se représente comme très masculin. Ça ne vous fait pas peur ?
Non. Au contraire, j'aime bien. Je trouve ça passionnant de pouvoir travailler sur les avions.
Et alors, est-ce que vous vous êtes fixé un plan de carrière, des objectifs de carrière ?
Oui, j'aimerais bien évoluer du coup dans l'industrie aéronautique, donc de pouvoir gérer des projets, monter en compétences et pourquoi pas aller vers le management.
Alors, il paraît que vous rêvez d'intégrer la NASA, c'est vrai ou pas ?
Oui, c'était un rêve, ouais, pouvoir intégrer la NASA.
C'est toujours votre rêve, vous dites que c'était un rêve.
S'il y a une opportunité, je pense que je vais y réfléchir beaucoup. J'ai déjà eu la chance de travailler dans le labo équivalent, presque équivalent à la NASA, qui est à l'ONERA, du coup, qui est un laboratoire de recherche aéronautique en France. Donc ça, c'est déjà très bien. Ça me tenterait au bien d'aller à la NASA, mais
Et ben
maintenant...
C'est...
Oui.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, Narindra. J'ai envie de faire réagir nos invités à mes côtés en studio. Qui veut réagir ? Hortense.
Oui, vraiment, félicitations, bonjour. Bonjour. Moi, je pense qu'elle elle est arrivée à ce niveau parce qu'elle a été soutenue par sa famille. Elle a vécu dans un milieu où on l'a aidée à se considérer comme égale. J'ai envie de lui demander... Est-ce qu'elle a des frères? Elle a des frères dans la famille?
Non, pas de frères. Voilà. On est trois sœurs.
Parce que chez nous en Afrique, souvent, on privilégie l'éducation
des garçons.
Ouais. Et je pense que là, c'est extraordinaire qu'elle puisse atteindre ce niveau. Et pour moi, ça me conforte dans ma pensée que pour que nous arrivions à être vraiment sur le même pied et travailler à âme égale avec les hommes, il faudrait qu'on bosse, qu'on aille au bout de nos compétences et de notre professionnalisme.
Qui veut réagir, Sigrun?
Oui, bonjour Narindra.
Bonjour Sigrun.
Oui, on se connaît nous. Je suis très fière de toi et je te remercie de m'accueillir pour ta soutenance lundi. Ça va être un grand moment. Vraiment, je suis très, très fière. Et vraiment, je te souhaite vraiment pouvoir continuer à aller vers le NASA. Bon, tu ne vas pas baisser les bras, c'est sûr. Et tu vas te rappeler qu'Amelia Earhart était vraiment une femme d'exception. Malheureusement, elle s'est perdue. Elle s'est abîmée en mer en 1937. Mais à son mémoire, on a créé ce prix Amelia Earhart pour les filles dans technologie et aérospatiale. Et cette femme, elle était la première femme à traverser en solo de Hawaï en Californie en 1935. Et il n'y avait pas d'homme qui avait réussi avant elle. Voilà. Continue.
Merci beaucoup, Sigrun.
Julienne, vous voulez dire un mot?
Bonjour Narindra, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Merci pour l'invitation, pour la soutenance. Narindra, on sera présente lundi. Félicitations pour ton parcours et je t'encourage vivement à intégrer la NASA, qu'on poursuit tes rêves jusqu'au bout de tes rêves, de façon à ce que tu sois toujours un modèle pour la nouvelle génération malgache. Voilà.
Voilà. Eh ben, Narindra, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous et puis on croisera les doigts pour vous lundi prochain, le jour de la soutenance de votre thèse. À bientôt, Narindra.
Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.
Tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en où je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je serai poli.
Balance ton quoi, Angèle, sur RFI dans 7 milliards de voisins. Comment s'imposer professionnellement dans un monde d'hommes quand on est une femme? On continue d'en débattre avec nos invités. Julienne Morisseau, présidente du Zonta Club Paris-Port-Royal Concorde. Hortense Tchéquété, orthoptiste au Bénin et membre fondateur du Zonta Club de Cotonou. Sigrun Christiansen, chef d'entreprise à la retraite et ambassadrice de la fondation du Zonta International. Et Carole Gaillard, directrice générale de la société Chez Elle, les femmes et le vin. On va prendre une autre auditrice au standard. Mam, bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Vous nous appelez de Bayard, dans la région de Thiès. Mam, on vous écoute. Je crois que vous êtes documentaliste logisticienne, c'est ça?
Oui, oui. Logisticienne par validation des acquis professionnels. Je voudrais juste apporter un témoignage et puis rappeler aux femmes qui, comme moi, travaillent avec des hommes d'être assez fortes et puis de former pour réussir à vivre ou bien à survivre dans ce milieu.
Ah, vous pensez, vous, que non seulement il faut vivre, mais survivre dans un milieu d'hommes?
Oui, il faut survivre.
Mam, vous ne travaillez quasiment qu'avec des hommes dans votre entreprise?
Quasiment qu'avec des hommes.
Mam, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit autour de vous. Je vais demander à nos invités de réagir peut-être. Est-ce qu'il faut fournir, comme l'a dit Mam à notre assistante tout à l'heure, 4 fois plus d'efforts pour avoir le tiers du salaire d'un homme? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. Il faut travailler 2 fois plus quand on est femme. Et puis, je vais glisser un peu sur nos politiques, si vous voyez, qui ne font pas confiance aux femmes. Quand vous voyez les gouvernements qui s'installent, on a une minorité de femmes. On a essayé en France la parité, sauf au Rwanda, en Afrique, où une loi a été votée.
Et en Éthiopie maintenant, je crois.
Oui. Mais chez nous, dans mon pays, par exemple, sur 32 ministres, sur 22 ministres, nous avons 4 femmes seulement.
Donc vous lancez un appel au président béninois, Patrice Talon.
Je lance un appel, je peux aller plus loin, au Cameroun, 65 ministres, dont seulement 8 femmes, plus 2 secrétaires d'État. Ainsi de suite. Oui. Même au Sénégal, 39 ministres et 8 femmes seulement. Et les politiques n'arrivent pas à placer les femmes dans leur parti parce que bon, on n'a pas confiance à la femme. Donc quand la femme a une profession, qu'elle est quelque part, elle est obligée de se battre 2-4 fois plus pour s'imposer et surtout être très très compétente.
Ouais, on ne pardonne rien à une femme.
On ne pardonne rien à une femme. Et souvent, vous les entendez même dire « Oh, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes une femme. »
Il y a toujours cette condescendance dans le
sexuelle,
monde du travail.
Machiste, qui fait que les femmes se découragent. Ça ne les amène pas à performer, en fait. Et moi, l'appel que je lance, c'est que je dis aux femmes « Battez-vous, hein. Vous êtes compétentes, allez jusqu'au bout, comme elle a dit, de vos rêves. » Et battez-vous tous les jours, parce qu'on ne vous donnera rien sans en cadeau.
Julienne.
Battez-vous et formez-vous. Donc, parce que non seulement on travaille deux fois plus, mais les femmes ont souvent recours à l'auto-formation pour pouvoir juste dépasser le niveau, acquérir une certaine légitimité et, dans leur profession. Donc, l'auto-formation qui passe par donc, des lectures incessantes de manuels techniques, dans le cadre de la technique, les formations en ligne, maintenant les MOOC qui existent, ou tout simplement des sessions, des séminaires à suivre dans les écoles locales. Commerce ou autre, pour pouvoir toujours se tenir à jour, se maintenir à jour et ne pas avoir de critiques sur ses compétences parce qu'on est une femme.
Il faut être irréprochable tout le temps, oui. Carole Gaillard.
Oui, moi j'ai envie de dire aux femmes, soyez audacieuses, ambitieuses, osez, je pense qu'il y a un verbe qu'on ne doit jamais oublier, osez, osons aller au bout de nos rêves, mais gardons quand même nos émotions, notre authenticité, notre sincérité, c'est ce qui fait la différence entre hommes, femmes, et je pense qu'il faut rester vrai et extrêmement sincère et empli d'émotions, parce que les émotions c'est pas forcément négatif, au contraire c'est le petit plus, et c'est important dans la vie.
Sigrun, vous voulez ajouter un mot?
Oui, je voulais ajouter un mot parce que c'est sûr, même en Scandinavie, ça c'est l'opposé de l'Afrique, je pense, encore. Mais il y a également un autre élément qui entre en jeu, c'est un peu la jalousie entre les femmes qui réussissent.
Oui,
exactement. Et moi, je pense... Et moi, je l'ai vécu. C'est vraiment épouvantable. Mais voilà, donc on se bat, on est qualifié, mais il y a donc quelqu'un qui vous guette. Si vous faites un
faux pas. C'est tellement juste.
Julienne. Les jalousies existeront toujours, ça c'est humain. Il faut aller de l'avant, ne pas regarder derrière et puis accomplir ce qu'on a à accomplir. Le temps nous est court, on ne sait pas combien de temps il nous reste encore. Et puis après, essayer de cultiver la positivité, d'avoir la niaque et puis continuer.
On va retourner au standard où nous avons un auditeur en ligne. Crispin, bonjour.
Oui, bonjour.
Crispin, vous nous appelez de Goma en RDC, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je suis en RDC, précisément à Goma, dans la province du Nord Kivu. Le sujet m'a beaucoup intéressé quand je suis en train de suivre les arguments de ces deux dames qui sont avec vous dans les studios. Alors moi, je me dis que nous devons quand même arriver à encourager les femmes, dans leur lutte. Mais aussi, dire aussi aux hommes aussi de les accompagner, parce que le plus souvent, nous racontons que les hommes n'arrivent pas à accompagner les femmes dans leur lutte, et c'est peut-être pour la raison qu'ils n'arrivent pas à aboutir à leurs ambitions.
Donc c'est un petit peu ce que vous disiez Hortense tout à l'heure, une femme a besoin d'être soutenue bon, quand elle est jeune fille par ses parents, sa famille, oui. Et quand elle est adulte par son conjoint.
Tout à fait. Et il faudrait aussi que nous sensibilisions les hommes, les garçons, dans les familles, au niveau des foyers, que ça soit pas toujours la jeune fille qu'on envoie faire la cuisine, et que le garçon sache aussi que la jeune fille, sa sœur, a des droits, les mêmes droits que lui.
Qui veut compléter, Julienne? Non, Carole.
Moi, je vous remercie infiniment pour les propos que vous venez de tenir, parce que je voudrais aussi qu'on pense à toutes ces femmes, et j'en fais partie, qui ont fait le choix, ou pas forcément le choix, de mettre leur vie professionnelle entre parenthèses pour élever leurs enfants, parce que c'était effectivement une belle chose que de pouvoir se consacrer à sa famille. Et puis, petite crise de la cinquantaine, envie de réaliser un rêve, c'est ce qui m'est arrivé. Mais bien souvent, et trop souvent, le conjoint et la famille ne suit pas. Et ça aussi, c'est un combat important. Et je sais que beaucoup de femmes ressentent, lorsque je parle de mon expérience, ressentent ce que je veux exprimer. Donc bravo, monsieur, pour ce que vous venez de dire.
Crispin, votre femme travaille?
Oui, mon épouse travaille dans une école privée.
Et vous avez des enfants?
Oui, j'ai deux enfants pour le moment.
Et alors, comment ça se passe à la maison? Est-ce que vous participez? Est-ce que vous prenez en charge une partie des tâches domestiques?
Exactement. Parce que comme mon épouse, il fallait qu'à la première heure qu'elle soit à l'école. Et dès que elle est partie à l'école, je dois rester à la maison d'abord de m'occuper de mes enfants, vers 8h, 9h, comme je peux sortir après avoir m'occupé des enfants. Et c'est comme ça que j'arrive à aider mon épouse.
Très bien. Merci beaucoup, Crispin, de nous avoir appelé de Goma. Bonne journée à vous. On va prendre Seydou qui nous appelle de Tawa au Niger. Bonjour.
Bonjour, Istal.
Alors, Seydou, on vous écoute.
Oui, moi, je suis un homme et je préfère être sous ordre d'une femme qu'un homme.
Ah, pourquoi?
Parce que vraiment, j'ai vécu les deux cas. Mais avec les hommes où j'ai eu à rester, vraiment, ils sont autoritaires. Ok, les femmes dont j'ai vécu avec, ils ont partagé les connaissances avec moi. J'ai vraiment trop appris avec eux.
Alors, qui veut réagir au témoignage de Seydou? Hortense Tchékété.
Oui, merci beaucoup. Les femmes ont des choses à donner. Les femmes ont beaucoup à donner. Il y a le sens maternel, affectif. Et puis, quand on leur donne la possibilité d'aller au bout de leurs compétences, mais elles sont vraiment formidables. Donc, je suis d'accord avec lui.
C'est doux. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu seule à penser ça? Ou bien est-ce qu'autour de vous, les hommes sont finalement d'accord et aiment travailler avec des femmes?
Bon, il peut y avoir des synonymes, mais... Je ne sais pas, mais ce que j'ai vécu, moi, personnellement, c'est ce que j'ai raconté.
Très bien. Merci pour votre appel, Seydou. Charisma nous appelle de Boaké. Bonjour, Charisma.
Oui, bonjour, Chantal.
Alors, vous êtes manager, ou je ne sais pas si on peut dire manageuse d'un hôtel, ça se dit ou pas?
Bah, je pense oui.
Alors, on vous écoute, Charisma.
Non, alors, moi, c'est un client qui demande d'avoir le manager. Et puis, ben, c'est moi qu'on lui présente. Et puis, une fois que je suis face au client, il commence par me féliciter. Il me dit, mais c'est bien, de plus en plus de personnes confient des postes à responsabilité aux femmes. Donc, pour moi, j'étais contente, c'était un compliment. Jusqu'à ce qu'ils me disent, en fait, c'est parce qu'elles vivent avec des hommes qui les entretiennent et qu'on n'est pas obligé de les payer cher, en fait. C'est ce qui m'a choquée, en fait. Voilà.
Et qu'est-ce que vous lui avez répondu?
Sur le coup, j'ai rien dit parce que c'est un client et que ça aurait pas été joli ce que j'allais sortir. Mais voilà, j'ai compris que c'était pas un compliment.
Alors, des réactions comme celle de ce client, on en rencontre encore beaucoup, j'imagine. Julienne?
Dans mon secteur, il y a des réactions sexistes, mais bon, pas de cette portée. Et puis, il faut toujours répondre de manière intelligente et puis avec beaucoup d'humour. Moi, c'est l'humour que je mets en avant et beaucoup d'autodérision. Donc, de façon à faire comprendre à l'interlocuteur qu'il est complètement hors sujet, ridicule et que c'est les compétences qui priment.
Carole?
Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Julienne. C'est les compétences qui doivent primer et puis peut-être... Oui, ne pas relever ce genre de propos qui sont odieux.
Hortense. En fait, c'est une question de mentalité. Mm-hmm. Bon, en France, en Europe, ça a beaucoup évolué, mais en Afrique, on rencontre encore ça. Vous conduisez, par exemple, dans la rue, vous faites une bêtise, vous freinez brutalement, un mec va vous dépasser et puis dira, mais voilà, c'est... Tu sais même pas conduire, t'as même pas l'argent pour acheter la voiture, c'est parce qu'on t'a mis une voiture dans les mains. Vous voyez, donc il y a de ces réflexions, mais en fait, il faut pas y répondre, quoi. Mm-hmm. Parfois, quand on arrive à bout, on leur balance ce qu'on pense à la figure parce qu'ils le méritent bien.
Merci Charisma pour votre appel. On va prendre Nadine, qui nous appelle de Paris.
Oui, absolument.
Bonjour Nadine.
Bonjour.
Vous êtes franco-sénégalaise.
Oui.
Quelle est votre profession?
Je suis enseignante.
Alors, vous aviez envie de réagir dans notre débat. On vous écoute.
Absolument. D'abord, dire que c'est hyper pertinent. Et dire qu'effectivement, pour appuyer une des participantes qui disait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les gouvernements, surtout en Afrique, je dirais qu'aussi que les femmes peuvent effectivement être des alternatives face à l'échec des politiques, des politiciens de manière générale, tout simplement parce que au niveau des associations, on voit qu'elles sont très actives. Je prends l'exemple du Sénégal. Beaucoup de femmes présidentes d'associations, beaucoup de femmes présidentes d'organisations communautaires de base. Et qu'effectivement, si on prenait leur valeur ajoutée, si on ne faisait pas l'omerta justement sur leur valeur ajoutée, elles pourraient, à bien des égards, non seulement être plus pertinentes dans le débat politique, mais aussi créer beaucoup de synergies pour régler beaucoup de crises politiques en Afrique.
Quand vous parlez de valeur ajoutée, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment vous pouvez définir la valeur ajoutée d'une femme?
Alors, la valeur ajoutée, je parlerai d'un concept très répandu et très aussi répandu chez les femmes, ce que j'appellerais les soft skills. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme, de manière générale, elle a beaucoup plus d'empathie que l'homme. Elle a beaucoup plus de sensibilité, elle a beaucoup plus de réflexivité. Bref, elle a, à mon avis, beaucoup de bagages qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir intervenir dans une situation donnée pour justement dénouer une crise ou pour apporter une solution ponctuelle par rapport à un problème posé.
Vous êtes d'accord les unes et les autres, Hortense Tchékété?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci pour cette intervention parce que je dis souvent que nos pays africains et les pays en voie de développement cherchent à se développer. Mais on oublie de faire participer les femmes qui constituent 51% de la population et qui, parmi ces 51%, il y a quand même des femmes qui sont... qui ont des valeurs et qui ont des compétences. Alors, on garde les 49% d'hommes et on veut travailler seulement avec les 49% pour faire développer le pays. On a besoin de tous les bras, les femmes y compris, pour développer nos pays.
Julienne.
Les femmes sont partie complètement inclusive du développement d'un pays. On ne peut pas penser à un développement durable d'un pays, à une croissance sans les femmes. Sachant que la plupart du temps, les femmes sont majoritaires en nombre. Donc, ça manque de sens que ce soit les hommes qui gouvernent exclusivement alors que les femmes sont concernées.
Et quels sont les atouts d'une femme par rapport à un homme pour la gestion d'une entreprise, d'un ministère, voire d'un pays? Est-ce que vous avez...
Elle est plus consciencieuse, elle est plus méticuleuse, elle cherche toujours à faire bien son travail. Vu mon expérience, je pense que quand on confie un travail à une femme, elle le fait de façon correcte et vraiment avec tous ses atouts.
Nadine parlait d'empathie. Carole, vous êtes d'accord ?
Oui, et moi je dirais qu'une femme est jusqu'au boutiste. Quand elle a décidé quelque chose, elle le fait, elle va au bout et ça c'est très important, c'est une grande qualité.
Nadine, est-ce que vous avez une question pour nos invités ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
En fait, ce que je rajouterais, c'est dire qu'au niveau, toujours je reviens à la politique parce que c'est la gestion des affaires de la cité, au niveau du militantisme, on retrouve aussi beaucoup d'objectivité au niveau des femmes, des militantes femmes. Elles sont beaucoup plus dévouées que les hommes. Elles sont beaucoup plus consciencieuses. Tout à l'heure, l'une de vos invitées le disait, malheureusement, on ne prend pas tout cela en compte lorsqu'il s'agit de distribuer les postes. Pour ce qui est aussi des fonctions électives, ce n'est pas évident parce que les populations aussi sont tellement éduquées d'une certaine façon que parfois, si on doit mettre sur la balance un homme et une femme, c'est malheureusement un homme qu'on va prendre. Vraiment inconsciemment, c'est l'homme qu'on va prendre, malheureusement.
Merci beaucoup Nadine de nous avoir appelé. J'ai encore une question. Est-ce que vous faites partie d'une association ou d'un club comme le Zonta, ou est-ce que vous auriez envie de faire partie de ce genre de réseau?
Ah oui, parfaitement. J'en aurais bien envie. Actuellement, je ne fais partie d'aucun réseau de femmes.
Il y a un club à Dakar.
Mais j'aimerais bien être participante.
Il y a un club à Paris. Il y a
un club à Dakar.
Et bien voilà, on vous attend.
Il y a des clubs à Paris.
On vous attend, Nadine. 7 milliards de voisins touchent à sa fin. Merci à toutes les quatre d'avoir été les invités de cette émission. Merci à Sigrid Azeroual et à Delphine de Dianous de m'avoir aidé à préparer cette émission réalisée par Romain Dubrac. Émission à réécouter en podcast sur le site RFI.fr ou sur l'appli RFI Pure Radio rubrique magazine. Demain, nous parlerons du divorce quand les pères sont privés de leurs enfants. Si vous voulez témoigner ou nous poser des questions, un seul numéro, le 33 1 84 22 75 75. C'est le même pour nous laisser des messages sur WhatsApp.